Chapitre 19. Sur la colline de Sablon. Le lendemain matin, Erwan, Galiad et Fingin firent leurs adieux à leurs quatre compagnons. Tous avaient l'âme triste et quelques larmes coulèrent secrètement. Mjoln, qui détestait les adieux, feignit la mauvaise humeur et abrégea ses au revoir. Quand Erwan vint voir Aléa, la jeune fille hésita un instant. Elle prit les mains du jeune magistel dans les siennes et regarda ses compagnons. Tous avaient tourné la tête. Elle s'approcha du jeune homme et posa un tendre baiser sur ses lèvres. Erwan la serra dans ses bras. « Sois prudent, » murmura-t-elle à son oreille. « Si je sais que tu penses à moi, il ne peut rien m'arriver, » la rassura-t-il en souriant. Elle fit un pas en arrière et essaya de retenir les larmes qui montaient à ses yeux. « Toi aussi, sois prudente, » ajouta le jeune magistel avant de s'éloigner. Il monta sur son cheval aux côtés de Galiad et Fingin, prêts à partir. « Les premiers à avoir fini leur mission n'auront qu'à partir à la rencontre des autres, » dit Aléa avant de les laisser s'en aller. « Si nous avons fini au Mont-Tombe avant que les combats ne soient achevés à Philidène, nous viendrons vous prêter main forte. Et si vous avez fini avant nous, attendez-nous à la sortie du Mont-Tombe. N'entrez pas dans la ville, vous risqueriez de vous faire prendre. Si nous finissons en même temps, nos routes ne pourront que se croiser. Le passage est étroit entre les montagnes et la mer. Je sentirai votre présence. Et Fingin, il faudra chercher la nôtre. » Le druide acquiesça. Galiad adressa un dernier regard à la barde, puis fit faire demi-tour à son cheval. Ils partirent tous les trois au galop, le plus vite possible, pour tenter sans doute de s'éloigner des instants pénibles de la séparation. Bjoln soupira.
« Eh bien !»
s'exclama-t-il.
« Il a fallu que je supporte deux femmes pendant des jours et des jours de marche, et maintenant je vais devoir en souffrir trois. Je ne sais pas ce que j'ai fait à la Moira pour mériter ça. »
Caitlin écarquilla les yeux. Elle n'était pas encore habituée aux manières quelque peu particulières du nain. « Allons, mon cher Mjoln, » répliqua Aléa. « Si tu préfères aller à Philidène, il est encore temps de courir après les chevaux. » Le nain lui tira la langue. « Si vous ne vous montrez pas un peu plus courtois, mon ami, » enchaîna Faye en souriant, « je me demande bien laquelle de nous trois va accepter de vous prendre sur son cheval. »«
Si vous insistez, ça... « je peux vous attendre ici, moi !»
Aléa s'approcha du nain et le saisit par les épaules. « Oh non, ton amabilité légendaire nous manquerait beaucoup trop !» Les trois femmes montèrent enfin à cheval, l'humeur plus légère, et Faye tendit la main au nain pour qu'il grimpe derrière elle. « J'ai encore des choses à vous apprendre, si vous voulez devenir barde avant les fêtes de Beltane. » Jolne se hissa sur la croupe du cheval, fit passer sa cornemuse sur sa hanche, et commença à jouer un air gai. Les animaux se mirent en marche vers l'est. Au sud, on pouvait voir l'avancée de la mer, aussi bleue que le ciel et calme comme un grand lac. Le soleil était déjà haut, et le vent léger qui soufflait de la côte était fort bienvenu. Les trois femmes restèrent silencieuses, écoutant avec plaisir les mélodies que le nain jouait sur sa cornemuse avec une dextérité grandissante. Les chevaux avançaient loin du chemin, à travers champs. Aléa ne voulait croiser personne, et la nature était belle sur les plaines de l'Harcourt. Ils restèrent au pas une bonne partie de la matinée. Puis Aléa, qui était seule à l'avant du convoi, se retourna vers ses compagnons. « Nous devrions nous dépêcher. Si nous faisons vite, nous pourrons être au Mont-Tombe dès demain. » Le nain soupira et passa sa cornemuse dans son dos pour s'agripper à la taille de Face.
« Et allons-y »
grogna-t-il. Aléa se pencha sur son cheval, caressa son cou en murmurant quelques paroles rassurantes, puis elle le fit partir au galop, et les deux autres chevaux suivirent aussitôt. Ils ne s'arrêtèrent qu'au début de l'après-midi pour manger, prirent un repas modeste à l'ombre d'une futaie et repartirent sans attendre vers le Mont-Tombe, dont la silhouette pyramidale allait bientôt apparaître au milieu de la mer. Ils ne firent aucune pause de tout l'après-midi, et quand le soleil commença à descendre, ils aperçurent enfin le célèbre rocher au milieu de la baie. mon tombe semblait flotter dans un océan de nuages. La ville fortifiée se fondait dans les reflets du sable, sur le flanc est du mont, et l'abbaye colossale émergeait au-dessus des toits gris, son clocher dressé vers les cieux, telle la plume d'un copiste. Aléa regarda longuement le mont tombe, pleine d'admiration. L'édifice lui rappelait Saïmina, certes, mais il y avait quelque chose de plus étrange ici. Ce rocher solitaire, planté au milieu d'un estran de sable, paraissait irréel. Les petites maisons de pierre, face à la mer, grimpaient le long du rocher comme à l'assaut du monument abbatial. Et tout autour, on avait peine à distinguer ce qui était ciel, terre ou mer. « Nous allons dormir ici », annonça Aléa. Mjoln frappa dans ses mains de joie. Rester assis toute la journée sur la croupe d'un cheval n'était vraiment pas confortable, et il était bien content de poser pied à terre. Les quatre compagnons préparèrent le dîner, et ce fut l'occasion pour Caitlin de se présenter un peu mieux. La mort de son frère pesait encore sur chacun de ses maux, mais elle trouvait un doux réconfort dans l'accueil de ses nouveaux compagnons de route. Parfois, le voyage noue des liens plus forts encore que mille paroles, et les âmes se marient souvent en laissant opérer la magie de la route. Ils mangèrent et partirent se coucher rapidement, devinant tous que la journée du lendemain serait sans doute difficile.
Imala, où es-tu passée, ma louve? Es-tu partie pour le mont tombe? As-tu pensé qu'Erwan et Galiad t'abandonnaient? Je n'arrive plus à la trouver. Elle n'est pas dans le monde de Jar. Je l'ai même cherchée à la porte des mondes. Si elle était là, je pourrais sentir sa présence. Me fuit-elle? Ou bien tout simplement n'arrive-t-elle pas à revenir ici? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Pas elle. Pas Imala. Je dois demander à Kiaran de la trouver pour moi. Il est dans le monde de Jar beaucoup plus souvent et il le connaît mieux que moi. Peut-être même l'a-t-il vu. Mais va-t-il accepter de me répondre? Il s'est enfui la dernière fois quand j'ai mentionné l'existence de mon frère. Il a simplement dit qu'il savait et il est parti. Il ne veut pas aborder ce sujet. Je voudrais savoir pourtant, mais si je l'interroge, il risque de partir de nouveau. Il faut que je sois prudente. Je vais d'abord lui parler d'Imala. J'appelle l'image du druide par la pensée. L'instant d'après, il est là, devant moi. Kiaran. Comme au premier jour, il ne porte pas l'habit des druides. Il est de nouveau vêtu tel un cheminant. Vous avez repris vos habits de jadis? Oui, cela me manquait. Parfois je me demande si j'ai bien fait de quitter ma famille. La vie vous oblige quelquefois à la reconstruire vous-même, votre famille. Je vois ce que vous voulez dire, Aléa.
Kiaran, j'ai encore besoin de vous.
Je vous écoute.
Vous passez beaucoup de temps ici. Vous avez déjà vu ma louve, n'est-ce pas?
Celle qui a la fourrure blanche.
Oui. Vous l'avez vue récemment?
Pas depuis longtemps.
Je la cherche. Je dois la trouver. Pourriez-vous m'aider?
Je peux essayer.
Je vous serais tellement reconnaissante. Je suis un peu inquiète. Si vous la voyez, essayez de lui faire comprendre que je la cherche. Essayez de lui dire de m'attendre.
Je ferai ce que je pourrai.
Merci, Kiaran.
Maintenant, je peux essayer, maintenant.
Pourquoi vous êtes-vous enfui la dernière fois que nous nous sommes vus?
Je n'aime pas parler des choses que je ne comprends pas, Aléa. Je ne veux pas aller contre le sens de la Moira.
Vous savez des choses qui m'intéressent, qui me regardent, que j'ai besoin de savoir.
Je ne sais rien de précis, Aléa. Rien que tu ne pourrais trouver par toi-même. Il faut que tu comprennes que l'apprentissage est plus précieux encore que la connaissance.
Pardon? Il se tait de nouveau. Il me sourit. Je sais qu'il va partir. Il aime ses petits mystères. Je crois au fond que ça l'amuse un peu. Je ne peux pas lui en vouloir. Kiaran est juste. Je comprendrai peut-être un jour. Et pourtant, j'aimerais tellement savoir.
Galiad, Erwan et Fingin s'étaient déjà arrêtés dans deux villages au-delà de la frontière entre Harcourt et Galassie. Fingin avait revêtu sa robe blanche de druide et les deux magistèles portaient sur leur plastron un surcot blanc sur lequel Caitlin avait pu broder la veille, en vitesse, le symbole qu'Aléa avait choisi. Le symbole du Samil Danak. Ainsi accoutrés, ils étaient impressionnants et leur passage attirait partout de nombreux curieux. Dans le premier village, ils avaient déjà recruté trois hommes dont les yeux s'étaient mis à briller quand Galiad avait annoncé qu'il recrutait l'armée du Samil Danak. Tous regardaient le druide et les deux magistèles avec admiration. Les tensions avec l'Harcourt rendaient les habitants de la région plus belliqueux que les villageois de l'Est galassien, et le nom d'Aléa était déjà une légende qu'ils rêvaient de pouvoir toucher du doigt. C'était comme si la présence de trois hommes ayant côtoyé la jeune fille était à elle seule un honneur pour le village. Et l'annonce d'un grand bouleversement. Deux des villageois qui les avaient rejoints approchaient la quarantaine. Ils avaient combattu pour la Galassie dans la bataille d'Harcourt et avaient gardé leurs armes et armures qu'ils ressortirent fièrement. Le troisième était un jeune homme, Talin, fils du tailleur de pierre. Il semblait ravi de quitter enfin son petit village pour partir à l'aventure. Erwan, qui devait tout de même vérifier que ses hommes étaient aptes au combat, vit qu'il ne connaissait aucune technique martiale. Mais il était robuste, agile et tellement enthousiaste qu'il n'aurait aucune peine à manier sa première épée. Dans le deuxième village, beaucoup plus grand, non seulement ils purent trouver cinq nouvelles recrues, mais ils croisèrent en plus un barde à qui Fingin demanda de propager la nouvelle. Il devait annoncer au pays tout entier, par le réseau de sa caste, que Galiad Aldaman, le tueur de dragons, marchait vers Philiden et que tous ceux qui voulaient servir le Samil Danak pouvaient rejoindre son armée. Le nom du magistèle, déjà, était synonyme de légende. Nul n'ignorait ses glorieux faits de guerre, ni sa victoire sur le dragon auquel il avait dérobé Bantral, sa terrible épée. Convaincre le peuple de Galassie de suivre ce guerrier célèbre était déjà chose aisée, et le nom d'Aléa ne faisait qu'agrandir l'enthousiasme des villageois. Fingin n'insista toutefois pas sur le fait qu'il partait aider les Tuatan, cela avait encore une image bien trop terrible en Galassie, mais plutôt qu'ils allaient attaquer l'Harcourt, et avec l'aide des druides, de surcroît. Au fur et à mesure de la journée, le nombre des combattants grossissait derrière la bannière qu'Erwan portait fièrement à côté de son père. Miliciens, anciens soldats, forgerons, fermiers, ils étaient nombreux à vouloir suivre le symbole du Samil Danak. Et plus les rangs de cette armée grossissaient, plus celle-ci entraînait de monde, de village en village. Quand vint le soir et que Galiad fit signe de s'arrêter, ils étaient près de 200, à pied ou à cheval, et dans leurs yeux se lisait une fierté que le magistèle n'avait osé espérer. Cette assemblée n'avait bien sûr pas la discipline d'une véritable armée. Un désordre bruyant régnait à travers tout le camp, mais le même engouement les habitait tous. Galiad vint voir son fils une fois que le camp fut installé, et ils demandèrent à Fingin de les rejoindre.
« Si nous ne cadrons pas les choses dès aujourd'hui, cela deviendra de plus en plus difficile chaque jour. » expliqua le magistèle aux deux jeunes gens en désignant le désordre qui régnait autour d'eux. Erwan acquiesça. « Il va falloir instaurer une hiérarchie ici comme dans un véritable régiment, » continua Galiad. « Répartir les rôles, voir quels sont ceux qui ont la plus grande expérience, ceux qui pourront commander, ceux qui ont un cheval, ceux qui tirent à l'arc, ceux qui tiennent l'épée. Nous devons nous y mettre dès ce soir. »
« Oui, père. »
« Réunis tous ceux qui ont une véritable expérience militaire et amène-les-moi. Je verrai alors si je peux établir une hiérarchie parmi eux. Pendant ce temps-là, tu t'occuperas des autres, et ceux qui ne savent pas se battre, tu leur montreras les premières techniques. Nous avons peu de temps, mais quelques heures d'apprentissage seront toujours bénéfiques. Fingin, j'ignore si tu sais faire cela, mais un jour j'ai vu Félim préparer une armée au combat en soignant des petites blessures, des petits maux quotidiens qui affaiblissaient les hommes. » Peux-tu essayer ?
Bien sûr,
acquiesça le druide. Alors dépêchons-nous, conclut le magistel.
Galliad avait changé de voix. Ce n'était plus le père et l'ami qui parlaient, mais un véritable chef militaire. Erwan n'avait jamais vu son père ainsi, pas même aux côtés de Félim. Le magistel n'avait sans doute pas eu à diriger une armée depuis fort longtemps. Il était entré au service de Félim peu après la naissance d'Erwan, et sa vie était devenue beaucoup plus solitaire depuis lors. Mais il semblait qu'il n'avait rien oublié de son passé de chef de guerre. Erwan, qui avait voyagé toute la journée à côté de Talin, le fils du tailleur de pierre, avait sympathisé avec lui. Il lui demanda donc de l'assister dans l'organisation de cette armée naissante. Sur les 200 hommes qui étaient là, 60 seulement avaient eu une expérience militaire. Erwan parvint à les réunir tous avec l'aide de Talin et leur demanda de rejoindre Galliad. Ensuite, il rassembla les autres un peu plus loin et monta sur son cheval pour être vu de tous.
« Galassien, vous avez accepté de rejoindre l'armée du Samil Danak et nous vous en sommes reconnaissants. »
Il y eut des cris de joie dans la foule autour de lui.
« Gardez vos cris pour plus tard !»
ordonna-t-il, comme pour les préparer aux réalités de ce qui les attendait.
« Nous n'avons pas de temps à perdre en célébration. Il faut que vous soyez bien conscients d'une chose. Si vous avez accepté de nous rejoindre, ce ne peut pas être pour la gloire, mais que vous êtes prêts à mourir pour le Samil Danak. Votre engagement doit être total, messieurs. S'il y en a un seul ici qui ne se sent pas à la hauteur de notre cause, un seul qui ne se sent pas prêt à mourir pour elle, qu'il quitte dès à présent ce camp, et il ne lui en sera pas tenu rigueur. Après, il sera trop tard. »
Erwan fit une pause. Un profond silence avait gagné l'assemblée, et il posa un regard circulaire sur ses hommes. Il vit dans leurs yeux qu'il avait accaparé leur attention.
« Je suis Erwan Aldaman, fils de Galliad Aldaman, le tueur de dragons. Je suis le magistel de Fingin, grand druide au conseil de Saimina. Dorénavant, vous êtes à mes ordres, à ceux de mon père et à ceux du grand druide Fingin. » Si l'un d'entre vous refuse notre autorité, qu'il quitte ses rangs tout de suite, car après, il sera trop tard. »
De nouveau, il n'y eut aucun mouvement.
« Bien. Les hommes que vous voyez là-bas, réunis autour d'Aldaman, ont déjà servi dans l'armée. Ils ont une formation militaire et savent se battre. Mais vous, ici, n'êtes pas des combattants. »
« Mais nous savons quand même nous battre !»
cria un homme au milieu de la foule. Erwan tourna la tête et chercha des yeux celui qui était intervenu.
« Qui a dit cela ?»
La foule s'écarta autour d'un homme aux larges épaules. Il baissa la tête d'un air gêné.
« C'est moi !»
avoua-t-il en levant les yeux vers Erwan.
« Quel est ton métier ?»
demanda le jeune magistel.
Je coupe le bois, j'abats les arbres, et je participe aussi à la construction de nos maisons,
répondit-il fièrement.
Et tu sais te battre?
Bien sûr, ce n'est pas parce que je ne suis pas soldat que je ne sais pas me battre.
C'est vrai, acquiesça Erwan. J'ai rencontré il y a 2 jours des cheminants qui se battaient mieux que certains soldats.
Et avec quelle arme sais-tu te battre?
« Avec les 2 armes que j'ai au bout des bras !»
s'exclama le villageois en levant les poings, entraînant le rire des hommes autour de lui.
« Et tu crois que tu vas pouvoir tuer beaucoup de soldats de la flamme avec tes poings ?»
demanda Erwan. L'homme haussa les épaules.
« J'ai bien peur, reprit le magistel, qu'il ne te faille plus que tes mains. Et quelque chose me dit que si je descendais de ce cheval pour me mesurer à toi à main nue, tu ne tiendrais pas bien longtemps. » « Veux-tu essayer ?»«
Non, je vous crois, monsieur Erwan. »
La foule éclata de rire de nouveau.
« Tu fais bien. Mais je suis content que tu saches déjà te battre. C'est mieux que rien. Et puis, si tu coupes les arbres, cela veut dire que tu sais tenir une hache, n'est-ce pas ?»«
Pour sûr. »
« C'est encore un avantage.
Toutefois, n'oubliez pas que les hommes que nous allons affronter sont des soldats aguerris. L'armée d'Harcourt est la plus forte en Gaëlia, et notre seule chance de gagner réside dans l'aide des druides. Alors évitez d'avoir trop confiance en vous, même si vos capacités de lutteur font la fierté de votre village. Devant un soldat de la flamme, vos poings ne serviront à rien. Il ne nous reste que très peu de temps avant cette bataille. Trop peu pour faire de vous des soldats expérimentés. Mais nous allons tout de même essayer de vous apprendre un minimum de choses. Y en a-t-il parmi vous qui ont déjà tenu un arc ?
Quelques mains se levèrent.
Très bien, groupez-vous à ma droite. Tous ceux qui ont déjà tenu une hache, même si ce n'était que pour couper du bois, regroupez-vous à ma gauche. Y en a-t-il qui ont déjà manié une épée ?
Moins d'une dizaine d'hommes levèrent la main.
Je vois. Groupez-vous au centre. Et ceux qui restent, venez au centre également. Bien. À présent, y a-t-il des forgerons et des menuisiers ?
Quatre hommes levèrent la main.
Vous quatre, expliqua Erwan, vous vous occuperez de nos armes. Vous allez devoir réparer celles qui seront cassées, et pour le moment, je vais vous demander d'essayer d'en fabriquer le plus possible. Je sais bien que vous n'aurez pas le temps de nous faire de belles épées, mais vous devriez pouvoir fabriquer quelques arcs et un nombre respectable de flèches. Allons, mettez-y vous dès maintenant.
Les quatre hommes, heureux d'être investis d'une mission, repartirent vers le centre du camp d'un pas preste.
Bien, les autres, attendez quelques instants et ne bougez pas, ordonna Erwan.
Le jeune magistel s'adressa alors à Talin.
Regroupe toutes les armes du camp et assemble-les par catégorie ici même. Je reviens dans un instant.
Erwan fit demi-tour et partit au trot vers son père et les militaires. Galiad, qui était en train d'interroger ses hommes un par un, s'interrompit pour écouter son fils.
J'ai besoin de 6 mètres d'armes, dont 2 archers, expliqua Erwan.
Galiad acquiesça. Il choisit 6 hommes et leur ordonna de suivre son fils. Ainsi, la formation des premiers hommes réunis sous la bannière du Samil Danak commença dès le premier soir. Erwan surveilla l'entraînement jusqu'à la tombée de la nuit, essaya de distinguer ceux qui se montraient plus doués que les autres et prodigua quelques conseils aux débutants. Galiad nomma 3 capitaines et 12 lieutenants, et il expliqua aux autres qu'il devait guider tous les villageois, les surveiller, leur apprendre toutes les règles essentielles d'une armée en marche. Quant à Fingin, il trouva en effet plusieurs hommes dont il put soulager de vieilles douleurs et, par le Saïman, tenta de redonner à ceux qui étaient le moins en forme un peu de vigueur et de vitalité. Quand il fut vraiment tard et que la fatigue des hommes devint un véritable poids, Galiad ordonna que l'entraînement cesse. Les hommes mangèrent et se couchèrent aussitôt, à bout de force pour la plupart. Mais tous étaient fiers, et cela pouvait se lire dans la lumière de leurs regards. Aléa réveilla ses compagnons juste avant le lever du soleil.
« Nous devons partir dès maintenant, » expliqua-t-elle. « Je veux en finir au plus vite pour rejoindre les autres dès que possible. »
Mjoln fit la grimace pendant tout le petit déjeuner, mais Caitlin et Faith s'efforcèrent de le faire rire et la barde le prit de nouveau sur son cheval au moment du départ. Ils se mirent aussitôt au galop, longeant la côte à l'ouest de Rhia, chevauchant à travers les premiers rayons du soleil. Le littoral obliqua au milieu de la matinée vers le nord-ouest, puis redescendit vers le sud, comme ils approchaient de la baie du Mont-Tombe.
Dépêchons-nous, intervint Faith en inspectant l'horizon. La mer est encore basse, nous devrions pouvoir traverser. Mais il faudra faire très vite. La marée remonte en peu de temps ici, et nous devons éviter les sables mouvants. La baie est particulièrement dangereuse.
Ainsi, ils repartirent au galop sans perdre de temps et foncèrent vers la côte le cœur battant. Ils arrivèrent sur la baie au milieu de la journée. La mer était encore loin, mais commençait à remonter.
« Nous n'avons pas le temps de rejoindre la digue centrale, » expliqua Faith, qui était déjà venue. « C'est certes la route la plus sûre, mais si nous devons y aller, nous allons perdre du temps et il sera trop tard pour traverser. »«
Ah, mais si nous coupons à travers la baie, ça, nous risquons de tomber dans les sables mouvants, oui !» C'est beaucoup trop dangereux. Et je vous rappelle, Madame Labarde, que le nain ne sait pas nager.
Nous n'avons pas le choix, Mjoln, répondit Aléa. Il faut passer maintenant, ou nous allons devoir attendre la prochaine marée. Allons, nous sommes à cheval. Nous ne risquons rien.
Mjoln leva les yeux au ciel en secouant la tête.
Tain, de toute façon, avec toi, lanceuse de cailloux, ça sert à rien de discuter. Tu n'en fais qu'à ta tête.
Allons-y, s'exclama Aléa, impatiente. Les chevaux partirent au galop dans le sable blanc où poussait par endroits une herbe d'un vert fluorescent. Le mont Tombe se dessinait de façon de plus en plus précise sous leurs yeux ébahis. Les toits, les fenêtres, les meurtrières sur la façade raide de l'abbaye, les murs de pierre qui se succédaient à travers les étages du rocher, les tourelles en encorbellement, les arbres touffus qui remplissaient l'espace entre les maisons et le grand édifice. Aléa était en train d'admirer la silhouette crénelée du mont, quand soudain, elle sentit que les sabots de son cheval commençaient à s'enfoncer dans le sable. Elle projeta aussitôt le Saïman devant elle. Le flot d'énergie glissa entre les grains de sable et les mains tint serrées pour durcir le sol. Le cheval allait très vite, et Aléa avait du mal à maîtriser la direction du Saïman, à le maintenir devant elle, puis en dessous et encore loin derrière pour que les deux autres bêtes ne s'enfoncent pas, elles non plus. L'exercice lui demandait une quantité incroyable d'énergie. Le Saïman filait sous ses yeux. Sa tête commençait à tourner. Sa vue se troublait. Mais le sable était de plus en plus mou. Il ne fallait pas qu'elle arrête. La jeune fille s'agrippa à la crinière de son cheval pour ne pas tomber. Elle commençait à perdre l'équilibre. Les flots du Saïman diminuaient petit à petit. Il fallait qu'elle se ressaisisse. La flamme. Maîtriser la flamme. Elle pensa au conseil d'Erwan. Elle inspira profondément et se concentra sur ce point lumineux au milieu de son front. C'était comme si elle débutait de nouveau. Le Saïman semblait vouloir lui échapper, mais elle continua. Elle continua longtemps après que sa tête lui eût fait mal. Et quand enfin les sabots du cheval arrivèrent de nouveau sur une surface dure, elle s'écroula sur le côté et tomba sur le sol. Le cheval galopa encore quelques instants avant de s'arrêter un peu plus loin.
Aléa !
S'exclama Mjoln, qui avait remarqué que la jeune fille perdait l'équilibre depuis plusieurs foulées. Le nain sauta sans réfléchir du cheval de Face et roula dans le sable mouillé. Il se releva en secouant la tête, puis courut vers la jeune fille. Aléa ne bougeait pas, étendue sur le ventre, le visage enfoncé dans le sable. Le nain se précipita à côté d'elle. Il se mit à genoux et la fit tourner sur le dos. Il la secoua, lui donna quelques tapes sur les joues, puis repoussa les cheveux qui collaient à son front. Lentement, Aléa rouvrit les yeux. Mjoln poussa un soupir de soulagement.
« Comment te sens-tu »
l'interrogea-t-il en caressant sa joue.
« Ça va, ça va. Je crois que j'ai perdu connaissance. Merci, Mjoln. »
« Tu es trop fatiguée, Aléa !»
s'exclama le nain dont le cœur battait encore à tout rompre.
« Ce n'est pas sérieux. Nous ne devrions pas continuer à ce rythme-là. Ça, non. C'est de la folie, mon enfant !»
Aléa souffla et essaya de se lever. Elle était encore un peu étourdie, mais elle s'appuya sur l'épaule du nain et parvint à tenir debout.
« Non, Mjoln, ce n'est pas ça, je t'assure. »
Aléa a utilisé trop de Saïman, intervint Face qui était elle aussi descendue de cheval.
Vous ne vous en êtes pas rendu compte, cornemuseur, mais elle nous a sauvé la vie.
Le nain fronça les sourcils.
Mais de quoi parlez-vous?
Aléa sourit. Elle commençait à retrouver ses esprits. La flamme du Saïman qui avait disparu dans sa chute venait de se rallumer au fond de son âme.
« Je vais bien maintenant, » assura la jeune fille. « Je vais bien. La mère arrive. Il faut que nous partions tout de suite. Ne te fais pas de soucis, Mjoln. Je vais vraiment bien. »
Le nain fit une grimace sceptique. Il regarda Aléa remonter sur son cheval et haussa les épaules. Face l'aida à grimper derrière elle et ils se remirent en route. Le mont Tombe n'était plus très loin.
Les soldats de la flamme étaient ici même hier matin, maître druide.
Fingin lança un regard inquiet à Galliad à côté de lui. L'aubergiste semblait paniqué. L'armée arcourtoise avait donc un jour d'avance sur eux, et à l'en croire, ils étaient très nombreux.
Je n'ai vu qu'une toute petite partie de leurs troupes, et ils ne sont pas tous passés par ici. Mais j'ai entendu leur conversation. J'ai dû leur servir à manger, et ils n'ont rien payé, ces vermines.
Le druide le remercia et sortit de l'auberge avec Galliad. Dehors, les soldats du Samil Danak, comme ils s'appelaient eux-mêmes, étaient maintenant près de 500. Mais Galliad savait que ce nombre restait anecdotique face à celui des soldats de la flamme. Et si en plus ils avaient déjà du retard sur leurs ennemis, pourraient-ils vraiment aider les Tuatanes? Arriveraient-ils seulement à temps? Il aurait fallu presser le pas encore davantage, mais cela ne leur laisserait même plus le temps de donner à ces soldats de fortune les maigres heures d'entraînement nécessaires, ni même les conseils de rigueur avant une guerre pour laquelle ils n'étaient pas vraiment faits.
« Erwan, dis au capitaine d'écourter la pause. Nous devons partir au plus vite. »
Le jeune homme s'exécuta aussitôt. Les hommes commençaient à mieux s'organiser. La hiérarchie s'était installée et tous respectaient leur chef sans protester. Pour la plupart d'entre eux, marcher auprès d'un druide et de deux magistels était déjà un privilège suffisamment grand pour qu'ils n'osent se plaindre du rythme soutenu de la marche ou du manque de sommeil. Philidène était encore loin, et Galliad se doutait que les soldats de la flamme progressaient à une vitesse bien supérieure et gagneraient rapidement plus d'avance qu'ils n'en avaient déjà. Il espéra qu'il pourrait trouver un moyen de faire tourner le retard de sa petite armée à leur avantage. Si les soldats de la flamme n'avaient pas été prévenus qu'une armée se réunissait sous la bannière du Samil Danak, il pourrait peut-être les surprendre en les prenant à revers. Mais le réseau des bardes avait déjà fait tourner la nouvelle. Et il y avait peu de chances que les Harcourtois ne soient pas déjà au courant. Dès que le repas fut fini, les soldats du Samil Danak se remirent en route. De village en village, cette petite armée recevait non seulement de nouvelles recrues, mais aussi de nombreux présents. Vivres, armes, armures et vêtements aux couleurs de la bannière blanche et rouge, chevaux. La nouvelle de leur passage les précédait, et ils étaient maintenant attendus par les villageois qui les accueillaient avec honneur. Étonné par cet engouement inattendu, Galliad interrogea l'un des derniers hommes qu'il avait nommé capitaine. C'était un ancien soldat, qui s'était reconverti après la guerre d'Harcourt dans la menuiserie, mais qui avait gardé de ses années de combat une autorité et un charisme remarquables, tout autant qu'un sens aigu du combat.
« Le nom du Samil Danak était déjà sur toutes les lèvres avant même que l'on parle de cette armée, Aldaman. » Cela fait longtemps que les habitants de la galaxie attendent un événement comme celui-là. Un changement, tout simplement. Et aussi l'occasion de se venger de l'Harcourt.
Vous croyez que toute la galaxie pense comme vous ? L'interrogea Galliad.
Non. Je crois que c'est spécifique aux régions de l'Ouest, celles qui sont en contact direct avec les chrétiens. Mais il n'y a pas que cela.
Comment cela ?
Amin. Depuis la mort des Hogan, pour la première fois depuis bien longtemps, le peuple de Galassie n'apprécie pas son souverain. Personne ici n'aime la reine. Et quand elle a annoncé en plus qu'elle refusait d'aider les druides à repousser l'Harcourt, cela n'a fait qu'empirer les choses. C'est pour cette raison que les soldats que nous avons croisés dans le dernier village ont fermé les yeux. Je crois que, au fond d'eux-mêmes, ils aimeraient être à notre place. Suivre le Samil Danak, plutôt qu'être aux ordres de celle qui a assassiné notre roi.
Peut-être aussi avaient-ils tout simplement peur de nous. Nous étions tout de même au moins 10 fois plus nombreux. Ils sont peut-être en train de faire un rapport détaillé à la reine.
Peut-être. Mais je ne le crois pas.
« Je vous remercie, capitaine. Regagnez vos rangs à présent. »
Le soldat salua Galliad et repartit parmi ses hommes. Le magistel le regarda s'éloigner, puis il fit accélérer son cheval pour monter vers l'avant-garde. Les hommes marchaient de plus en plus vite, comme s'ils sentaient que le combat n'était plus loin. Ils étaient prêts à tout, prêts à mourir. Pour la galaxie ou pour le Samil Danak, ils ne savaient sans doute plus vraiment. Galliad soupira. Il se demandait si Aléa avait réalisé comment tout cela risquait de se finir. Il y aurait des centaines de morts. Des centaines d'hommes qu'elle ne connaissait pas mourraient pour elle. Et pourtant, avait-elle le choix? Pouvait-on laisser l'Harcourt s'imposer? Qu'adviendrait-il si les chrétiens l'emportaient? Galliad préféra ne pas y penser et rejoignit Fingin de l'autre côté des troupes. Ils arrivèrent à la fin de l'après-midi devant la porte de l'avancée, au pied des murs du mont Tombe. Une garnison de soldats de la Flamme était installée dans le bâtiment du corps de garde, derrière la grande porte de pierre, mais ils ne prêtaient pas attention aux gens qui entraient. Le mont Tombe avait l'habitude de recevoir des visiteurs, et le bas de la ville n'était pas gardé sévèrement. En revanche, l'abbaye, elle, était surveillée comme une forteresse. Aléa, Feys, Kaitlin et Mjoln passèrent sous la porte et arrivèrent dans une cour triangulaire où se croisaient des charrettes et une foule de passants. Ils durent laisser leurs chevaux dans les grandes écuries du mont Tombe. Seuls les soldats et les commerçants pouvaient faire entrer des animaux au-delà des murs. Tous les autres, étudiants compris, devaient les laisser là, dans cette petite cour. C'était une sorte de sas entre la porte de l'avancée et la porte du boulevard, beaucoup plus grande, et qui était fermée la nuit. On passait alors sous un large mur, et on entrait dans la ville fortifiée à proprement parler. Les quatre compagnons avançaient lentement au milieu de la foule, essayant de ne pas trop se faire remarquer, même s'ils ne pouvaient s'empêcher d'admirer l'ampleur des constructions autour d'eux. Ils passèrent la seconde porte et arrivèrent dans la grande rue qui longeait les remparts, bordée de chaque côté de maisons hautes et étroites. Au-dessus des toits, on apercevait le sommet des fortifications et les tours qui se détachaient de la façade pour surplomber les flots. La rue était très agitée à cette heure. C'était une population très jeune, et Aléa reconnut tout de suite le costume des étudiants qui circulaient un peu partout. Il y avait aussi de nombreux commerçants et quelques visiteurs de passage qui prenaient leur temps pour admirer les splendeurs du mont Tombe. La rue montait lentement le long du rocher, et ils marchèrent ainsi sans se parler tout au long de la voie pavée. Au bout du rocher, la rue tournait pour repartir dans l'autre sens, derrière un nouvel étage de rempart. Bientôt, ils arrivèrent au pied de l'immense abbaye.
« Voilà, » expliqua Feys en attrapant Aléa par le bras. « L'université est à l'intérieur de ces murs. »«
Dans l'abbaye ?» s'étonna Aléa.
« Bien sûr. Ce sont les moines qui donnent les cours. L'abbaye est divisée en deux bâtiments. L'édifice central, en forme de croix, comme une église, qui au nord est flanquée d'une bâtisse tout en longueur que l'on appelle la merveille. C'est dans ce second bâtiment que les moines retrouvent les élèves. Et c'est là également que se trouvent le scriptorium et la bibliothèque.
Bref, c'est là que nous devons aller, conclut Aléa en acquiesçant.
Oui, confirma Feys en penchant la tête. Et cela risque de ne pas être facile.
Par où entre-t-on?
Les gardes ne laissent bien sûr passer que les moines et les étudiants. Ils entrent par la porterie, là-bas, dans ce petit bâtiment qui est au pied de l'abbaye. De là, on a accès à l'escalier du grand degré qui mène aux trois étages de l'édifice. Il y a aussi une porte qui mène vers l'aumônerie, où les moines sont censés accueillir les pauvres. Mais il n'y a pas beaucoup de pauvres au mont Tombe.
Crois-tu que nous aurions une chance d'entrer par là?
Nous pourrions difficilement nous faire passer pour des moines ou des étudiants, répliqua la barde en grimaçant.
Alors comment faire? Feys regarda les hauts murs de l'abbaye.
L'escalier du grand degré extérieur donne aussi sur la coursive en haut du rempart, là-haut, expliqua Feys en indiquant le mur qui longeait la rue. La coursive va jusqu'à la tour là-bas, à droite. Si on trouvait un moyen de grimper dans la tour, et si on arrivait à longer la coursive sans se faire voir jusqu'à l'escalier, alors on pourrait arriver jusqu'à l'intérieur de l'abbaye.
Mais ça fait beaucoup de si. Et les difficultés ne feront alors que commencer.
« Tout ça pour trouver des livres ?»
s'exclama Mjoln.
« Et tu ne sais même pas lire en plus ?»«
Feys sait lire, » répliqua Aléa un peu vexée. « Et moi, je commence à apprendre. »«
Kaitlin ?» L'actrice acquiesça.
« Oui, j'ai appris à lire il y a longtemps. Je ne garantis pas que je sois très rapide, mais je devrais pouvoir t'aider, Aléa. »
De toute façon, non. Ça, on n'arrivera jamais à l'intérieur. Oh non !»
grogna Mjoln. Aléa soupira. « Tu ferais mieux de nous trouver un moyen de grimper sur cette tour plutôt que de râler tout le temps, mon petit cornemuseur à barbe. »
Mjoln baissa la tête et regarda partout autour de lui dans la rue.
« Chut ! Moins fort ! Ça, tu vas nous faire remarquer !»
chuchota le nain en levant les yeux vers Aléa d'un air gêné.
« Il y a une taverne juste en face de la tour, » intervint Face. « Nous n'avons qu'à aller dîner là-bas et nous pourrons inspecter les remparts, discrètement. »
Ils redescendirent la route tous les quatre, adressant quelques regards inquiets à l'immense abbaye.
C'est encore moi qui vais devoir payer !»
se plaignit Mjoln en glissant ses mains dans ses poches. Aléa ne put s'empêcher de rire.
« Bon, Mjoln, si tu m'aides ce soir dans l'abbaye, je te promets que je retournerai avec toi dans le tunnel de Brocélia pour ramener l'immense trésor que tu as vu, et tu pourras le garder pour toi tout seul. Cela te remboursera au centuple tous les dîners que tu m'as offerts. »
Le nain tordit la bouche en une grimace amusée.
« Vrai ?»
glissa-t-il en s'arrêtant de marcher. Aléa se retourna vers lui. « Ce trésor ou un autre, mais je te promets plein d'or, plein d'argent. D'accord ?»«
Seul un fou ne serait pas d'accord. Pour toi, je veux bien escalader n'importe quelle tour lanceuse de cailloux. Et surtout avec de l'or en promesse. »
Aléa le prit par le bras et ils se remirent en route vers la taverne. Ils mangèrent en prenant leur temps, appréciant la cuisine et le cadre délicat de cette petite auberge. L'humeur était joviale. La guerre ne semblait pas troubler les habitudes des nombreux étudiants qui venaient dîner là. On était un peu à l'écart, au Mont Tombe, loin de tout, et même des guerres. À la tombée de la nuit, les quatre compagnons sortirent de la taverne et firent quelques pas vers la maison qui était au pied de la tour. Mais il y avait encore du monde dans la rue, et la pleine lune déposait sur la ville tout entière une vive lumière.
« Nous ne pourrons jamais monter sans être vus !» chuchota Kathleen en s'approchant d'Aléa.
La jeune fille se mordit les lèvres.
« Il faut peut-être trouver un autre moyen d'entrer, » suggéra Face.
« Non, » répondit Aléa. « Attendez, il y a sûrement un escalier dans cette tour, et peut-être tout simplement une porte au pied du mur. »
« Cela m'étonnerait, » répliqua Face. « Et de toute façon, elle sera sûrement bien fermée. »
Aléa sourit. « Ça, j'en fais mon affaire. Attendez-moi ici. » La jeune fille se faufila entre deux maisons et disparut dans l'ombre des remparts. Mjoln leva les yeux vers la barde.
« Tada ! On va s'ennuyer quand tout ceci sera fini, n'est-ce pas ? »
dit-il, un sourire au coin des lèvres.
« Si l'on reste avec Aléa toute notre vie, on risque de ne jamais avoir le temps de s'ennuyer. »«
Toute notre vie ? Ça non ! Je vous rappelle que je veux devenir barde !»
« Mon bon Abak, vous ne tiendriez pas un mois sans la voir, » se moqua la barde.
Mjoln se gratta la barbe en faisant une grimace.
« Pas même une semaine, j'en ai bien peur. Ah ! Maudite fillette, je l'aime comme ma fille. »
Kathleen s'approcha d'eux.
« Elle est toujours comme ça ? »
s'enquit-elle en souriant. Face et Mjoln se regardèrent, puis tournèrent la tête vers l'actrice et acquiescèrent de concert. Quelques instants plus tard, ils virent la tête d'Aléa sortir de l'ombre de la petite ruelle.
« Psst !» appela-t-elle. « Venez !»
Ils lancèrent un coup d'œil dans la rue pour voir si personne ne les regardait et se précipitèrent entre les deux maisons.
« Maintenant, c'est ouvert !» annonça Aléa fièrement.
Puis elle repartit dans l'autre sens en leur faisant signe de la suivre. Ils découvrirent alors effectivement une toute petite porte de bois au pied de la tour. La serrure avait été forcée. Aléa se faufila à l'intérieur. Mjoln hésita un instant, regarda tout en haut de la tour, puis partit derrière la jeune fille en grommelant. Face et Kathleen suivirent. L'escalier en colimaçon était des plus abrupts. Il montait d'une seule traite jusqu'en haut de la tour. L'ascension s'avéra éprouvante. Aléa s'arrêta plusieurs fois pour reprendre son souffle, mais elle distança tout de même le nain, pour qui les marches paraissaient encore plus hautes. L'escalier tournait,
tournait dans l'obscurité, éclairée seulement de temps en temps par les rayons de la lune qui filtraient à travers les meurtrières. Le bord des marches était usé, et il dérapait souvent, se rattrapant parfois de justesse au mur de pierre ou sur la marche suivante. Enfin, Aléa arriva tout en haut de l'escalier, à bout de souffle. Il y avait là une porte en bois identique à celle du bas. La jeune fille entendit approcher les pas lourds de Mjoln en dessous d'elle. S'il ne faisait pas moins de bruit, il risquait de se faire repérer. Mais elle ne pouvait pas lui parler. C'était encore plus risqué. Elle se retourna et se plaqua contre la porte pour essayer d'entendre s'il y avait quelqu'un de l'autre côté. Il y avait sûrement des gardes qui venaient faire des rondes, mais peut-être n'étaient-ils là que par moments. Elle puisa le Saïman tout au fond de son esprit. Le souffle chaud monta le long de son corps, dans ses bras. Lentement, il s'échappa par ses mains et se faufila sous la porte, à travers la serrure, entre les planches. Aléa continua d'envoyer le flot de l'autre côté. Il glissait sur un sol de pierre, puis s'élevait, emplissant l'atmosphère pour appréhender l'espace. C'était bien un extérieur. Le rempart, sans doute. Il n'y avait personne pour le moment. Aléa poussa le Saïman encore un peu plus loin. Il glissa sur la coursive comme un nuage difforme. Toujours rien. La voie était libre. Mjoln arriva bientôt, suivi de Faith et Kathleen. Le nain se laissa tomber sur la dernière marche, complètement épuisé. Aléa posa un doigt sur ses lèvres pour leur faire signe de ne pas parler. Elle chercha dans sa poche le crochet qu'elle avait utilisé en bas pour ouvrir la première porte et le faufila dans cette nouvelle serrure. Celle-ci cliqueta. Aléa fit tourner la petite aiguille plusieurs fois à l'intérieur, délicatement, comme si elle manœuvrait du cristal. Soudain, la porte s'ouvrit devant elle. La jeune fille se redressa avec un sourire satisfait et rangea ses outils dans sa poche en adressant un clin d'œil à Mjoln qui venait à peine de retrouver une respiration normale. Elle fit signe à ses amis de se cacher derrière elle et poussa lentement la petite porte de bois. Elle redescendit deux marches pour s'approcher du sol de la coursive, puis elle avança en rampant. Les trois autres la suivirent. D'ici, on entendait les échos indistincts des derniers bruits de la ville. Les volets qui se fermaient, les clients qui sortaient des tavernes, les seaux qu'on vidait par les fenêtres. Les quatre ombres avancèrent à plat ventre le long du haut rempart. Un observateur attentif aurait pu voir depuis la ville leurs silhouettes noires qui apparaissaient de temps à autre à travers les ouvertures du muret de la coursive. Mais il était tard, et ils passèrent inaperçus. Ils arrivèrent bientôt à l'angle nord-ouest du rempart, là où la coursive faisait un angle droit pour redescendre vers le sud, vers le grand degré. Aléa s'arrêta et fit signe aux autres de l'imiter. Elle vit alors qu'il y avait de la lumière à l'entrée de l'escalier. Des torches fixées au mur, sans doute. Cela ne signifiait pas obligatoirement qu'il y avait du monde de l'autre côté, mais c'était une possibilité. Encore une fois, elle envoya le Saïman devant elle. Cette fois-ci, elle pouvait le guider. Elle voyait jusqu'à la porte de l'escalier. Là, elle fit passer le flot d'énergie de l'autre côté, et fermant les yeux, elle le laissa emplir tout l'espace de la pièce qui terminait le haut de l'escalier. Soudain, elle sursauta. Elle avait senti une forme humaine, puis une deuxième. Des soldats. Il y avait deux gardiens dans cette salle de garde. Aléa grimaça. Elle abandonna le flot du Saïman et se retourna vers ses compagnons. Première difficulté, annonça-t-elle en parlant tout bas.
Ah, parce que l'escalier c'était une partie de plaisir ?
Raya Mjoln. Chut ! Murmura Faith derrière lui. Il y a deux gardes en haut de l'escalier. Ils font peut-être des rondes sur la coursive, et dans ce cas, ils risquent de sortir d'un instant à l'autre.
On fait demi-tour ?
Demanda Mjoln en souriant. Non, il faut que nous réussissions à aller jusqu'à la porte. S'ils sortent, nous n'aurons d'autre choix que de les assommer et les bâillonner. S'ils s'en vont, nous n'aurons plus qu'à entrer.
Allons-y.
Aléa se remit à ramper, mais beaucoup plus vite cette fois. Il ne fallait pas que les soldats les surprennent, et ils devaient donc arriver à la porte avant que ceux-ci n'en sortent. Quand elle arriva devant l'escalier, elle se dressa et se plaqua contre le mur en faisant signe à Mjoln de se dépêcher de la rejoindre. Le nain fit les derniers pas debout et vint se cacher à côté d'elle. Au moment où Caitlin se levait pour les rejoindre, la porte s'ouvrit juste à côté d'Alea Imjoln. Caitlin s'immobilisa, cherchant un endroit pour se cacher, mais il était déjà trop tard.
Que ?
Commença le garde en découvrant Caitlin et Face au milieu de la coursive. Il dégaina son épée et se précipita vers les deux femmes, suivi de près par le deuxième garde. Mais avant qu'ils ne puissent attaquer, Alea, cachée derrière la porte, envoya une boule de Saïman derrière eux qui les atteignit tous deux violemment derrière la nuque. Les gardes s'écroulèrent sur le sol, inconscients. Face et Caitlin découvrirent alors les mains dressées d'Alea au bout de la coursive. Elles s'avancèrent, enjambèrent les deux soldats étendus sur le sol et rejoignirent le nain et la jeune fille.
« On ne peut pas les laisser là comme ça, » chuchota Alea. « Ils vont se réveiller et donner l'alerte. »
Caitlin se retourna. Elle regarda les deux hommes évanouis, hésita un instant, puis se laissa tomber à genoux à côté d'eux. Elle déchira des morceaux de leur tunique et s'en servit pour les bâillonner.
« Il me faudrait quelque chose pour leur attacher les mains, »
dit-elle à l'attention des trois autres. Alea regarda à l'intérieur de la pièce et ne vit rien qui puisse faire l'affaire. Elle leva les yeux vers le plafond et vit deux chandeliers pendus au bout d'une corde. Elle monta sur la petite table et avec sa dague, coupa la corde.
« Tiens, » dit-elle à Caitlin, « et serre fort, il ne faut pas qu'il puisse s'échapper. »
« Ne t'inquiète pas, » répondit Caitlin en souriant. « Je vais faire un nœud si serré que moi-même je ne pourrai le défaire. »
Quand les deux gardes furent ligotés et bâillonnés, Caitlin les traîna jusqu'au tournant de la coursive, espérant que si un autre garde passait en haut de l'escalier, il ne pourrait les apercevoir. Face vint lui prêter main forte, puis elles revinrent sur leurs pas et pénétrèrent dans le grand degré. Ils n'étaient plus qu'à une journée de marche de Philiden, et ils étaient déjà plus de 1000. Erwan et Taline avaient compté 1200 hommes exactement. C'était bien au-delà de ce que Galliad avait espéré, mais cela ne suffirait peut-être pas. Toutefois, il y avait quelque chose d'émouvant dans cette armée en marche. Tous étaient animés par un seul et même espoir, le plus pur d'entre tous. Changer le monde. Changer le monde avec le Samil d'Anak. Galliad comprit en cet instant, contemplant la foule de soldats qui avançaient vers Philiden d'un pas décidé, que cela ne s'arrêterait que quand Alea le demanderait. Il y aurait toujours de nouveaux guerriers du Samil d'Anak. S'il y en avait déjà 1200, il y en aurait encore des milliers qui se lèveraient à travers le pays. On ne pourrait plus revenir en arrière. Le changement était en marche. Et le plus incroyable, c'était qu'une jeune fille de 13 ans avait suffi à le provoquer. Galliad se demandait si ces hommes savaient à quel Gaelia ils rêvaient. Quelle transformation voulaient-ils? Quel monde meilleur? Sûrement, la plupart d'entre eux ne le savaient-ils pas. Lui-même, était-il sûr des intentions d'Alea? Ce n'était pas pour l'idée d'un monde nouveau que ces hommes marchaient. C'était tout simplement pour l'idée du changement, pour le changement en soi. Au milieu de la journée, quand le soleil fut au sommet de sa course, un éclaireur s'en revint au galop vers Galliad. Erwan et Fingin l'aperçurent et vinrent aussi aux nouvelles.
« Général Aldaman, » commença le soldat en s'adressant à Galliad.
« La guerre a commencé sur la colline de Sablon, au nord de Philiden. »
Le magistère acquiesça. Il jeta un regard au druide et à son fils à côté de lui. Il n'était pas encore prêt. Mais l'était-on jamais?
« Avez-vous pu estimer leur nombre ?» demanda Galliad.
Les Tuatans sont seuls pour le moment. Les druides ne sont pas encore arrivés. L'armée d'Harcourt est beaucoup plus nombreuse, 3 ou 4 fois plus. Ils sont près de 20 000, je pense. Mais les Tuatans ont un avantage de terrain. Ils sont sur une colline qu'ils ont eu le temps de préparer, semble-t-il. Il y a des pieux dressés sur les flancs tout autour pour empêcher que des chevaux montent, et de grands rochers qu'ils font rouler du haut de la colline sur les soldats de la flamme. Bien. Qui dirige l'armée d'Harcourt? Alroeg est-il venu en personne? Je l'ai pas vu. En revanche, le général Dancret est là, et je l'ai reconnu. Je pense que c'est lui qui mène le combat.
Et les Harcourtois sont-ils seuls? Aucun homme de terre brune?
Je n'ai pas vu la bannière du comte Meriand, mon général.
Je vous remercie, soldat. Allez tout de suite prévenir les 8 capitaines et dites-leur que nous devons encore augmenter le pas. Nous allons tenter de prendre l'armée d'Alroeg à revers. »
L'éclaireur repartit au galop vers l'avant des troupes. Le soleil frappait plus fort que jamais. Il faisait chaud sous les armures et les haubères. Le combat devait être difficile sous cette chaleur. Mais cela, espéra Galliad, ne devait pas déranger les Touatanes. Le torse nu, les habitants du Cid avaient l'habitude de se battre sous de bien pires chaleurs. Le magistel se tourna vers Erwan et Fingin.
« Je veux que vous restiez ensemble pendant toute la durée des combats. Erwan, n'oublie pas que tu es le magistel de Fingin. S'il lui arrive quoi que ce soit, ce sera de ta faute. Dans une bataille comme celle qui nous attend, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais arrêter de vous battre. Ne faites aucune pause. Battez-vous, toujours, même quand vous serez trop fatigué. Tant que vous vous battrez, vous vivrez. »
Fingin acquiesça, mais on pouvait lire la peur dans ses yeux.